Bienvenue dans Partie Fine. Et ce mois-ci, nous recevons Sébastien Wehrink. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Bienvenue dans Partie Fine. On aura l'occasion de courant de cette émission de faire connaissance. Vous êtes artiste designer. On redéfinira, parce que c'est plus complexe que ça, enfin plus étoffé que ça, votre profil. On aura l'occasion de parler de vous, de votre parcours, de vos projets, de votre actualité dans cette émission. Et puis, bien sûr, tout ça entrecoupé de petit morceau de mon choix. Oui, Monsieur Clouseau est au micro de Partie Fine. On commence cette émission avec une réédition qu'on attendait depuis très longtemps. Alléluia. Merci Vadim Music. Un 45 tours qui est réédité, recherché par des collectionneurs du monde entier pendant des années. Je parle de Philippe Nico avec le morceau Sex.
C'est pas commode d'emballer des filles quand on n'a pas un minimum de baratin.
Extreme, but make you think I'm not faking it. Like all the other.
you feel your greed. Feeding on my knowledge like a cake. The smell of truth is our bait. So goals you will achieve. No loss or death to bereave. Believe me, I wouldn't lie. For my question, I need your reply. Whatever you take from me. Earning respect from the crowd as expression of my meaning comes loud, bringing it all across. So as you know, who's boss? This is not a media hype. Maybe I'm just not that type. My rhymes uplift you like a drug. Like a man, I'll be your rug.
Et voilà, vous avez peut-être reconnu un des premiers titres du groupe Saint-Etienne, le groupe londonien Saint-Etienne, qui a eu la très très bonne idée de ressortir en coffret son tout premier album Foxbase Alpha, dans un magnifique coffret avec un petit joueur du club de Saint-Etienne en plastique, des badges, plein de trucs, enfin bon, pour les fans c'est extra. Et donc surtout le disque qui est donc réédité en édition deluxe avec un deuxième CD plein d'inédits de rareté, dont ce fil-ci est un des premiers titres enregistrés par Saint-Etienne et qui était chanté par une autre chanteuse que Sarah Cracknell, qui est l'actuelle chanteuse de Saint-Etienne. Donc un disque bien évidemment indispensable pour les amoureux de l'électropop et les prémices de la pop électro en Angleterre. Voilà, on va revenir un petit peu sur notre invité, Sébastien Wierink. Donc rebonjour Sébastien.
Bonjour Vincent.
C'est Monsieur Clouzot hein, ici,
oui,
hein. Voilà,
Monsieur
c'est
Clouzot.
Simple. Et Sébastien, vous êtes né en Belgique, à Courtrai, en 1975, c'est bien ça?
Tout à fait.
Je révèle votre âge, ouais. Du coup. C'est un secret, l'âge dans le milieu du design, on essaie de rester jeune, ou l'apparence est importante ou pas dans ce milieu?
L'apparence, je crois pas. Je crois que c'est toujours bien de revendiquer qu'on est de sa génération, donc on a des choses à revendiquer parce qu'on a vécu des choses en commun avec d'autres personnes et que voilà, il y a un effet générationnel.
Ouais.
Après, oui, 75, ça paraît loin, mais en même temps, il n'y a pas si longtemps que ça.
Non, c'est sûr. Et de votre génération, il y a des gens avec qui vous vous entendez bien, des gens de votre métier, avec qui ça se passe bien, à Marseille ou ailleurs d'ailleurs.
Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le secteur design, qui sont à peu près dans les mêmes réseaux, donc on côtoie souvent des gens, et puis il y a des gens avec qui on a des affinités, qui sont de l'ordre professionnel, mais souvent derrière il y a la personne que, en fait, disons, quand on voit quelque chose qui m'interpelle, souvent la personne derrière peut m'interpeller aussi. Je sais pas pourquoi, c'est un truc.
Alors si on vous reçoit ici, c'est aussi parce que vous avez un lien très fort avec Marseille, c'est que vous vivez ici, ou pas très loin.
Bon, c'est vrai que je vis à Marseille. Il se trouve que pour le travail, je suis souvent à l'étranger, mais je suis marseillais, je vis ici. J'ai un bureau qui est près du Vieux-Port, rue Forcia, près du Polycarpov.
Alors, une personne qui, pour moi, a fait que j'ai reconnu votre travail, c'était Roger Pélas,
ouais.
Il y a quelques années,
ouais.
Dans le cadre de la foire d'art contemporain Art Dealers, qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus, mais qui a été plus ou moins aujourd'hui repris par des membres de son équipe sous la forme de Artorama. Vous aviez exposé sur le toit de la galerie un de vos premiers travaux, c'était un banc bleu avec en tube. Je sais pas, il a un nom celui-là.
Alors c'est une série de projets qui a comme nom on-site. C'est voilà. Après, ils sont codés, mais c'est plutôt des fichiers informatiques qui sont la raison pour laquelle chaque projet a un petit nom. Donc ça, c'est le on-site numéro 02, OS02.
Voilà.
Voilà, c'est une façon de classifier. Mais il se trouve que quand je suis parti vivre à Marseille, il y avait un ancien employeur à moi qui est un artiste plasticien bruxellois qui m'a dit, il faut que tu rencontres une personne, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, que je te recommande. Et c'était donc monsieur Pélas. Et il se trouve qu'au moment où je suis arrivé à Marseille, malheureusement, monsieur Pélas était malade. Et donc, du coup, j'ai pas eu cette chance-là de le rencontrer personnellement. Mais il se trouve que j'ai quand même pu exposer via ses collaborateurs lors de cette dernière foire qu'il y a eu dans sa galerie.
Et c'était une des premières, pas une des premières, mais une expo importante pour vous. Ça a été le départ de quelque chose ou ça a été, c'était juste une suite logique de beaucoup d'expos que vous aviez eu auparavant. C'était en 2002 peut-être,
je me trompe. Alors non, c'était en 2004 ou 2005. Même moi, ça commence à être un peu flou, mais je crois que c'est 2005. Et oui, c'était un nouveau départ. C'était l'arrivée à Marseille. C'était aussi
voilà.
Le fait que moi j'ai eu un parcours qui passait par différentes phases et je me suis beaucoup investi dans le travail, mais pas que dans mon travail. Et il se trouve qu'à Bruxelles, j'étais très investi dans le travail d'autres gens. Et à Marseille, j'ai eu l'occasion de reprendre un peu de souffle, de recréer, si tu veux, un environnement, une identité, parce qu'on recommence, en fait, quand tu déménages, t'es sur un nouveau territoire et puis naturellement, on te demande ce que t'es, ce que tu fais, pourquoi t'es là, et c'est assez dynamique. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien voyager, je bouge encore aujourd'hui beaucoup, et c'est une source continue d'inspiration, d'énergie, au fait.
D'accord. 2004, c'était aussi l'année où vous avez été lauréat du prix Mécène du Sud.
Oui.
C'était peut-être cette année-là, je crois.
Oui, voilà. Je crois que le prix était 2004 et l'exposition chez Roger, c'était 2005. Et donc j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, je suis arrivé ici, je ne vais pas dire sans un sou, mais quand même, jeune artiste, on connaît tous un peu la situation.
C'était en quelle année ? Vous êtes arrivé à Marseille
en 2004 et on n'avait pas encore l'association designer, naturellement, pour avoir les subventions de la DRAC et toutes ces histoires-là. Qui sont aujourd'hui quand même difficiles à voir parce qu'on n'est pas encore au niveau politique souhaité, mais je t'ai dit que je ne viendrai pas sur ces questions-là aujourd'hui. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir ce premier prix qui m'a permis de produire une pièce.
De là, tout a
redémarré. Marseille m'a donné la chance de rebooster mon travail, de continuer quelque chose qui était un peu... dans des dossiers, pas dans les placards parce que j'avais déménagé, donc c'était plus dans les cartons. Et de là, après j'enchaînais, et peut-être là il y a un lien direct avec la friche, j'ai enchaîné avec un boulot dans l'architecture pour monsieur, en fait, le cabinet d'architecture qui s'occupe en grande partie des travaux de la friche, qui est Mathieu Poitvin et Pascal Reynaud, qui sont des parrains de la culture et de l'architecture à Marseille. Et c'est des gens qui m'ont fait découvrir un peu le monde marseillais et la vie marseillaise par un œil que je trouvais très intéressant et qui m'ont donné la possibilité de travailler dans un cabinet d'architecture étant moi-même pas architecte. Déjà
mais il y a un lien quand même entre votre travail et l'architecture, quand même un lien fort, on en parlera tout à l'heure. Je vous propose pour le moment une petite pause musicale et on se retrouve après. Thank you. Système 80 et à l'instant Dali, deux titres extraits d'une compilation qui s'appelle Space Oddities. Dali, donc composé par un Français qui s'appelle Bernard Fèvre et qui a été un des pionniers de l'électronique en France à la fin des années 70, mais qui n'était pas du tout reconnu. Mais en revanche, il a été redécouvert par des personnalités comme les Chemical Brothers. Dans les années 90, il a été samplé par ces derniers sur un morceau qui s'appelle God Glint et qui a eu son succès. Bernard Fèvre s'est retrouvé avec des chèques de sa maison de disques dans son courrier. Il savait pas d'où ça venait. Ça venait en fait des royalties de vente des Chemical Brothers. Donc Bernard Fèvre qui est ressorti dans les années 90 et qui a été aussi déterré par Aphex Twin hein, qui a réédité en 2004 Disco Club, son album mythique édité en 78, qui avait fait un beat total à l'époque. Donc Bernard Fèvre, un Français qui compte en fait apparemment, en tout cas aux yeux des Anglo-Saxons, peut-être pas encore des Français malheureusement, parce qu'on n'a pas forcément l'oreille en France pour découvrir ça. Mais on l'a vu récemment dans un petit festival à Paris qui s'appelle Villette Sonic, pour ceux qui connaissent. et je vous conseille vivement d'acheter Black Devil Disco Club, qui est une réédition en fait de ses meilleurs titres. Voilà, donc Bernard Fèvre à l'instant. Revenons avec notre invité, Sébastien Huérink. On parlait donc de vos débuts à Marseille, de ce point de départ de 2004, et puis de cette collaboration avec le milieu des architectes, et puis ce travail d'agencement d'intérieur, puisque à la base c'est votre formation d'origine,
oui.
L'agencement d'intérieur. Vous avez passé ce diplôme où ? Ça s'est passé comment ? Quand ? C'était en Belgique ?
Alors, je pourrais pas le dire, surtout pas à la radio, je suis pas diplômé.
Mais,
voilà, j'ai fait ça à Bruxelles, dans une école qui s'apparente à une école des beaux-arts. Mmh. Et bon, voilà, à un moment donné, moi, en fin de parcours, j'ai décidé de travailler plutôt que d'avoir à écouter des choses qui ne m'intéressaient pas, venant de gens qui avaient une autorité qui ne me plaisait pas. Donc voilà. Et oui, c'est l'aménagement d'intérieur qui a fait pour moi une sorte de milieu entre, d'une part, l'architecture, d'une part, l'intérieur, la vie intérieure de l'architecture, bien entendu, mais l'objet. Donc il y a tout un univers qui s'est créé, ou que moi j'ai envie de créer autour de cette formation. Donc c'est pas que faire des décors, même si aujourd'hui je commence à apprécier le format du décor, parce que je crois que le décor ça peut nourrir des choses, hein, tout simplement, je l'assume.
Et donc en fait l'agencement d'intérieur, on en parlait tout à l'heure, il y a un projet qui s'est concrétisé là récemment, mais pour revenir un peu au début, vos premiers travaux, notamment à partir de 2004, ces fameux OS 01, 02, 03, enfin toute une série de on-site sont des bancs en fait. Est-ce qu'on peut le résumer ? Pour les auditeurs, essayez d'expliquer un peu votre travail, parce que là on n'a pas d'image.
Voilà, alors formellement, ce que j'ai fait dans ce travail-là, c'est que j'ai utilisé des matériaux qui sont matériaux industriels, produits de façon industrielle en masse, qui sont des tuyaux en plastique, plus précisément en polyéthylène, hein, c'est fait comme les bouteilles d'Evian qu'on recycle par après, et qui sont en fait utilisés comme fourreaux. En fait, c'est un tuyau qui sert à protéger toutes les canalisations, en fait, tout ce qui est réseau de distribution souterrain que tu as en ville, que ce soit l'électricité, l'information, le gaz. Et moi, je l'ai utilisé pour certaines raisons qui sont d'ordre technique, mais aussi d'une partie de concept qui est ce tube qui est flexible, qui est très marqué par son caractère, ses couleurs, qui est codé par plein d'éléments techniques, mais qui faisait référence en fait à un matériau qui était souple, qui faisait référence à l'idée de réseau, hein, comme on était dans ce début de monde qui était vachement influencé par l'information et comment est-ce qu'on pouvait donner forme à cette information qui était quelque chose de très fluide. Et du coup, il y a eu tout un travail assez passionné autour de ce matériau. Je pouvais pas passer une journée sans avoir remarqué un bout de tube dans la rue, tel endroit ou tel endroit. Ça a été tout un projet que maintenant est toujours présent, mais je délaisse gentiment parce que ça a été ma marque de fabrique, c'est toujours ma marque de fabrique, mais j'ai commencé à avoir des critiques comme étant un peu l'entubeur du design, quoi. Tu
D'accord, oui. Ouais. C'est toujours difficile de faire face à ces critiques. Est-ce qu'elles viennent de d'où ? C'est normal dans ce milieu.
Je crois que j'aime beaucoup les critiques. Il y a des bonnes critiques et des mauvaises critiques. Il y a des gens qui donnent des critiques, mais je les entends pas parce que c'est des critiques qui sont faites que pour t'énerver. Après, je crois que les bonnes critiques, elles sont rares et moi aussi je les entends pas toujours, mais il y a sûrement des critiques à faire sur le travail.
Alors pour les gens qui veulent se familiariser ou pour les curieux qui veulent voir votre travail en France, aujourd'hui votre travail est exposé où ? Enfin les lieux à Marseille,
il y a un lieu, il se trouve que la Chambre du Commerce, donc qui est le Palais de la Bourse, qui est un lieu magnifique, qui est sur le Canebière, je sais pas le numéro, mais c'est le début,
c'est en
face du Carrousel.
Oui, c'est ça.
Je crois qu'il est toujours
là. Il est toujours.
C'est un peu mon dépôt expo, mais ouais. Voilà,
Vous avez eu un prix pour.
Voilà, j'ai eu un prix cette année passée. Il se trouve que dans la perspective de Marseille 2013, la Chambre du commerce a voulu montrer son dynamisme parce que c'est une question d'argent aussi la culture. Je ne sais pas qu'une question de entertainment. Il faut quand même avoir des sous pour produire de.
Bien sûr.
De l'art, de la culture, des traces. Et ils ont voulu renouer avec leur mission de patrimoine, parce qu'il y a vraiment une très belle collection d'art propre à la Chambre du commerce, en créant ce prix dans aussi cet esprit de Marseille 2013. Et du coup, j'ai été très chanceux d'être lauréat. Mmh. Avec un autre artiste qui était vraiment un artiste plasticien, lui un peintre dont je connais pas le nom malheureusement, donc je ferai pas sa promo aujourd'hui. Mmh. Et donc depuis elle est là, mais j'ai un très bon rapport avec la Chambre du commerce parce que c'est des gens qui sont pas vraiment obligés de soutenir la culture et ils m'ont vraiment souvent aidé quoi, soutenu et ça fait plaisir d'avoir des gens qui te soutiennent.
Et donc le Palais de la Bourse à Marseille et le Palais de Tokyo à Paris aussi.
Ah oui, ça c'est déjà plus, c'est un autre palais, Palais de Tokyo, mais il faut toujours préciser que c'est le restaurant, donc ce n'est malheureusement pas les grandes salles d'expo. Mais je suis pas plasticien, hein, tu sais, je suis designer, je suis dans les arts appliqués, donc sa place c'est dans le café, il est là et c'est, voilà. Je vais
beau
pas enchaîner,
aussi,
voilà, mais si tu veux enchaîner là, tu...
On enchaînera avec de la musique bien sûr, et puis après on évoquera l'autre gros travail d'agencement intérieur aussi au Café du 104 à Paris toujours. Vous êtes bien dans Partie Fine, nous sommes en présence de Sébastien Wehring, designer, artiste plasticien. Et l'actualité musicale, c'est aussi le dernier album de R avec ce titre instrumental Tropical Disease, extrait de leur dernier album Love 2. R, ça vous dit quelque chose, Sébastien ?
Oui, d'ailleurs, je crois que j'ai vu un des, je vais pas dire des musiciens ou des chanteurs dans un cinéma à Marseille un jour.
Oui.
Avec une jolie blonde à son bras et je me suis dit que j'allais pas l'embêter parce que peut-être beaucoup de gens l'embêtaient, mais je me rappelle très bien.
Ouais.
Non, j'ai vu le concert de R et je peux te dire quand, le 12 septembre 2001. Et c'était.
Vous a marqué là.
Non, c'était le post 11 septembre. Ouais. Bien entendu, il y avait des membres du groupe, des musiciens qui étaient new-yorkais et du coup ils avaient. Failli reporter le concert et puis en signe de d'espoir, ils ont finalement décidé de jouer. Oui.
C'était dans quelle salle ?
C'était au Hall de Schaerbeek à Bruxelles.
Alors Bruxelles, Paris, Marseille, c'est pas fatigant de bouger parce qu'il y a le côté famille privée, il y a le côté boulot, les expos qu'il peut y avoir dans l'Europe entière. Vous avez exposé à Berlin aussi, enfin en Allemagne. Est-ce que ça c'est plaisant dans ce métier-là ? Il y a un côté où on s'enferme pour travailler, et puis un côté où on sort, on s'ouvre complètement. C'est ça qui vous plaît dans ce métier aussi ?
Oui. Je dirais trois fois oui, parce que je crois que tu m'as posé trois questions. Le fait de voyager, est-ce que c'est fatigant ? Ben, c'est pas plus fatigant de faire tous les jours le même chemin pour aller à l'école ou à son travail dans la même ville, parce que c'est fatigant aussi. Je crois que c'est hyper dynamique, en fait, cette action de liberté et qui, dans un sens, c'est une sorte d'accélération et qui fait que c'est un peu en dehors d'une réalité. C'est comme si on prend ta voiture, tu roules à 180 à l'heure. C'est pas comme si tu marches à 5 km/h sur le trottoir. Il y a quelque chose qui se passe vraiment, je crois, à ce moment-là. Après, tu sais, Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Et il se trouve qu'on a, je crois qu'on a un petit pays, la Belgique, et du coup, cette idée, de frontières, ben très vite on a essayé de pas trop en parler parce que c'est tous les jours autrement la question de le problème de la frontière et puis on pourrait se casser la gueule parce que mon voisin je l'aime pas et que la frontière c'est plutôt là que là, donc je crois que il y avait pas raison de rester planté là-dessus. Et puis le TGV fait que l'axe en fait c'est le Thalys plus je crois entre Bruxelles et Marseille fait qu'aujourd'hui je pars à pied d'une petite rue de Schaerbeek, hein, une petite rue dans le panier, sans avoir eu de stress et en te croisant toi dans un wagon et en prenant une bière au bar. Ouais. Je trouve ça tout à fait plaisant.
Et grandir à Courtrai, c'est quoi ?
Alors, ça a été très vite parce que je suis resté que quelques jours à Courtrai. Ah. Courtrai, c'est vraiment un peu le bled.
Enfin, 70 000 habitants quand même.
Ouais, mais c'est essentiellement des enfants et.
C'est une ville un peu dortoir, c'est comment ? C'est résidentiel.
C'est la Flandre occidentale, c'est un drôle de truc.
C'est à 20-25 km de Lille, quand même. C'est tout à fait. À la frontière, c'est ça.
La Flandre occidentale, c'est des gens qui aiment bien le travail, qui aiment bien l'argent, qui n'ont pour autant pas toujours de bon goût, mais ils ont les moyens de créer des choses. Donc tu te retrouves sur un terrain où il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a des choses qui sont assez improbables. C'est plutôt les roots de ma mère qui sont là et c'est la raison pour laquelle je suis né là-bas. Après, moi, je suis passé par d'autres villages avant d'arriver à Bruxelles. Ouais. Voilà, et tu m'avais posé une autre question, c'est le troisième oui, mais je m'en rappelle pas directement.
Non, nord-sud.
Nord-sud, c'est super.
Ouais, c'est bien de basculer comme ça régulièrement. Est-ce que revenir à ses racines, revenir à des choses, parce que les mentalités peut-être sont différentes aussi dans le nord, dans le sud. Est-ce que cet équilibre-là, il est important pour vous aussi, les gens avec qui vous travaillez, avec qui vous vivez, comme ça, ces mentalités-là, est-ce que ça a un apport pour vous au quotidien ?
Bon, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais on parle depuis un certain temps de la mondialisation. Il se trouve que tu sois à Bangkok ou à New York ou n'importe où. Et je crois que tu peux le lire, l'entendre autre part ou le voir, c'est que quelque part, on n'a pas des différences fondamentales. De moins en moins, on s'habille de la même façon, on écoute la même musique. On est visible sur les mêmes outils, on se retrouve aux mêmes endroits, donc il y a une sorte de perte d'identité, tout en voyant bien que culturellement les gens sont différents. Donc c'est essayer de retrouver à chaque fois la particularité des gens, malgré la volonté apparemment que tout le monde se ressemble de plus en plus. On va vers quelque chose de commun et que peut-être qu'il faut réfléchir à ça. Bon, je vais pas rentrer là-dedans parce qu'on est dans une discussion pop, on va rester léger.
Oui, on va aussi parler de musique ici parce que on est dans une émission où il y a beaucoup de musique. On a écouté R, donc vous disiez que vous aviez eu un coup de cœur à l'époque. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours un groupe que vous suivez? Est-ce que ce style de musique-là, la pop un peu revisitée, inspirée des années 70, toute cette scène française des années 70, Gainsbourg, tout ça, est-ce que ce sont des choses qui vous plaisent ou pas du tout? C'est quelque chose.
Non, parce que ça fait plus partie de mon quotidien. Et je sais pas si je m'exprime encore bien, mais. Acheter un CD de R ou un CD d'un autre artiste, j'ai le choix. Il se trouve que rencontrer des gens qui sont musiciens dans la vie de tous les jours et qui te font découvrir une musique qui serait la musique française, qui t'amènerait autre chose que juste l'objet en plastique et t'amènerait à un univers, je dirais oui. En tout cas, moi, Bruxelles, ça a été aussi... je crois qu'à Marseille, il y a des éléments comme ça, mais j'ai rencontré des gens qui sont dans la musique et qui m'ont fait découvrir la musique. Et les gens étaient très importants, tu vois, l'album. Si c'est acheter un album de R, je peux acheter le nouvel album de plein d'autres gens, quoi. Tu vois, j'ai pas...
Sûr.
Donc oui, j'aime bien R, mais j'aime beaucoup d'autres choses.
Et quand vous travaillez, vous écoutez quoi?
J'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique et très fort. Là, en ce moment, il n'y a pas de gens qui travaillent avec moi, mais je sais que ça peut être très pénible.
C'est vrai?
Et en plus, je réponds pas au téléphone.
Musique quoi? Électronique plutôt? Quelque chose. Vous travaillez, beaucoup, vous êtes beaucoup dans la technicité, dans tout ce qui est la 3D. Enfin, j'imagine sur les ordinateurs et des logiciels, je ne veux même pas citer les noms. C'est très complexe. Quand on a besoin de se concentrer à ce point-là, la musique, quel rôle a-t-elle sur votre travail, sur votre quotidien?
Alors, on va dire que pour moi, la musique, c'est une question de temps et d'espace. Et c'est vrai que le temps de la concentration. C'est quelque chose pas du tout mystique parce qu'on n'en est pas là, mais il se trouve que quand tu travailles on va dire 18 heures d'affilée, tu peux commencer la journée avec quelque chose de très soft et à la fin de la journée il se trouve que tu montes en palier, tu vois. C'est comme si je pourrais aussi après 18 heures me prendre un rail ou un extra et sortir encore en boîte pendant 12 heures et arriver à un état travaillé, si tu veux. Et il se trouve que ma journée est définie par d'après les périodes, par des moments où telle musique a plus sa place que d'autres. Mais beaucoup d'électronique. C'est vrai que beaucoup de musique électronique. J'aime beaucoup la musique électronique.
On en parlera tout à l'heure. Moi, je vous propose d'écouter de la pop.
Très bien. Let's go. Rain under my umbrella.
I'll Never Stop Loving You, c'était Bert Kaempfert, un petit peu fleur bleue cette musique. Et puis juste avant, Margot Gurian, Under My Umbrella. On se demande si notre copine Rihanna s'est pas inspirée de ce titre. Alors Margot Gurian qui est une grande figure de la pop américaine des années 60, qui a été elle très inspirée par les Beach Boys et qui a offert de très très belles chansons pop à plein d'artistes américains dans les années 60. Elle a sorti un album culte qui s'appelle Take a Picture, que je vous conseille, qui a été réédité, plus des albums de démos réédités aussi. Donc Margot Gurian, une artiste majeure dans la pop américaine des années 60, conseillée par Monsieur Clouseau. Sébastien Huering, on parlait musique, est-ce qu'on peut rentrer concrètement dans des choses, voilà, des noms, des artistes que vous écoutez, pour qu'on comprenne un petit peu ce que vous aimez?
Oui. Alors on va dire que bien, il y a une écoute diversifiée entre les albums et la radio, les émissions radio, mais si on prendrait les derniers albums que j'ai achetés donc physiquement, sans les télécharger, il y a un album, le tout dernier, c'est, je regarde ma fiche parce que je ne vais pas dire des bêtises, hein, c'est Moderat, c'est en fait le chanteur de Apparat et les mecs de Modeselector qui ont fait un album ensemble. J'aime pas toutes les chansons, mais j'aime beaucoup cette énergie. En fait, j'aime assez bien la scène berlinoise.
Ouais.
Un groupe comme Reckenzentrum, j'aime beaucoup. Mm-hmm. Et en même temps, c'est aussi parce que j'ai croisé les gens, j'étais dans ces lieux où cette froideur industrielle était présente et où cette musique prend toute sa signification. Tu vois,
ouais.
Donc, je crois que j'ai un rapport comme ça. J'aime beaucoup la hip-hop. Mm-hmm. Je sais pas comment t'expliquer, mais si j'aurais pas été designer, j'aurais bien été
c'est vrai,
un mec à New York, au Bronx. Je sais pas.
Ouais. Mais plutôt même quel si type un peu de hip-hop, mais le hip-hop.
Là, en ce moment, j'aime beaucoup la hip-hop un peu abstraite.
DJ Shadow.
À l'époque, oui. Maintenant, comme label, j'aime bien Stone Throw. Je sais pas si tu vois. J'aime beaucoup Madlib. Là, je crois qu'il y a, mais parmi mes trois derniers CD, il y a deux Madlib, les Beat Constructor, Constructa. Un avec des sortes de bootleg. Avec pas mal de musique indienne, et puis voilà, c'est des choses assez abstraites finalement, parce que voilà, c'est des coupures. Autrement, j'aime beaucoup les voix, je crois que j'aime beaucoup les voix, j'aime bien les choses un peu naïves, j'aime beaucoup les groupes genre Midlake, en pop, mais on parle pas peut-être des mêmes années. J'aime bien Hot Chip, je trouve que un groupe comme Animal Collectif est quelqu'un qui a, ou c'est un groupe qui est très riche, je trouve. C'est quand même une des fois où j'ai vu un concert en me disant, ah, les mecs, ils innovent, quoi, tu vois. Ouais. En intégrant beaucoup de références, mais des gens qui innovent. Après, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Je crois que c'est un peu, voilà, c'est.
Et en, les concerts qui vous ont plu récemment, enfin, est-ce que vous allez régulièrement dans des concerts ou pas?
J'y vais plus.
Eh ouais.
J'y vais plus. C'est un drame. C'est un drame, je l'avoue, j'y vais plus.
Depuis R en 2001, vous en avez vu des choses ou pas?
Oui, j'en ai vu, mais là, il n'y a pas quelque chose qui me vient. Tu sais que j'ai pas mal travaillé récemment dans des festivals de musique électronique, donc il se trouve que tout en travaillant, j'arrive à voyager, en même temps, j'arrive à me faire des concerts. Donc, donc j'ai l'occasion de voir des actes à ce moment-là, donc j'ai vu pas mal d'actes électroniques, mais là, Club Transmedial, qui est dans une des boîtes un peu mythiques berlinoises.
Ouais.
J'ai vu passer beaucoup de monde. Après, il y a tellement de monde que je pourrais pas donner les noms.
Non, bien sûr.
Mais donc c'est une façon de voir des choses. Après, je suis trop exigeant que pour aller voir n'importe quoi. Je suis trop engagé dans d'autres choses que pour prendre le temps et d'arriver dans des bonnes conditions à un concert. Je ne vais pas faire de dessin, mais tu vois, il y a des choses comme ça qui se préparent aussi, tu vois. Donc des concerts, non, j'en fais plus.
Et la ville dans laquelle vous préférez sortir, c'est Berlin aussi? Parce que vous faites
Bruxelles.
Ah, Bruxelles.
Ouais, à une époque, c'est une des raisons pour laquelle je suis parti. Je voulais plus sortir à Bruxelles parce que je pense avoir fait le tour de la question, mais. Ouais. Mais tu sais, c'est les bars, ils ferment quand ils veulent, quoi. Je veux dire, il n'y a pas question de 2 heures. C'est un truc, faut encore m'expliquer.
C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France. Hein.
On peut se censurer, mais on peut faire beaucoup de conneries et on t'embête pas, quoi. Je veux dire, je vais pas dire qu'il y a des coffee shops à Bruxelles, mais tu pourrais quasiment fumer un joint et te dire que tu passes un bon moment sans que ça fasse un drame. Je veux dire, il n'y a pas les gens qui sont complètement bourrés non plus dans la rue parce qu'on peut ouvrir quand on veut. C'est juste être bon vivant, quoi. Tu vois, et tu rencontres des gens. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça.
Et voilà. Parce que par exemple, on prend l'exemple de la ville de Rennes qui subit un petit peu tout ça aussi, parce qu'elle est transmusicale de Rennes, qu'on connaît bien, oui. Ce festival. Mais à côté, la mairie est assez difficile aussi et interdit beaucoup de choses. Les gens sont beaucoup plus fliqués qu'à l'époque, des années 80, je parle. Oui. Et il y a des lieux qui ferment beaucoup plus tôt. Oui. C'est très difficile aussi. Alors ici, à Marseille, on le voit peut-être différemment. La culture est différente aussi, mais c'est vrai que c'est un problème en France. Ouais,
peut-être. Mais je vais peut-être revenir là-dessus. Il se trouve, et j'ai des amis belgo-marseillais qui ont la même théorie que moi, c'est que, pardon, excuse-moi, à l'époque où moi j'étais à Bruxelles, c'était aussi les années 90, le début, il se trouve que Bruxelles n'était pas Bruxelles d'aujourd'hui, c'était un peu délaissé, la Commission européenne venait de s'installer là, ouais. Les Flamands et les Wallons voulaient chacun leur capitale, donc Bruxelles était un peu laissée de côté, était pris par l'immigration, les bourgeois étaient sortis de la ville, il y avait les autoroutes, les grosses voitures, on pouvait sortir, et du coup, il y avait un possible qui était assez chouette, c'est qu'on pouvait squatter un lieu, ouvrir des bars clandestins, tout un terroir, un territoire qui était vraiment potentiellement très intéressant, qui a fait son temps, qui est devenu à la mode, et du coup, tout est devenu à la mode. La théorie, c'est que ce potentiel, en venant à Marseille, c'était un peu la théorie de dire, cette ville, tout le monde le dit, et tout le monde, peut-être que je parlerai autrement dans quelques années, c'est qu'il y a un potentiel ici, c'est qu'il y a des choses à faire, et que quelque part, cet état est motivant, t'oblige à avoir une réflexion, t'oblige à agir, ou pas, mais en tout cas, ne te laisse pas neutre, et fait qu'aujourd'hui, je suis là, je suis content de te rencontrer, d'être dans cette émission, j'ai Radio Grenouille, et puis en espérant que dans 10 ans, on pourra dire qu'on a passé un très bon moment à Marseille en général.
J'espère. Voilà. J'espère. En tout cas, on passe un bon moment en votre compagnie, Sébastien. On marque une pause musicale. Any day now, I will hear you say goodbye, my love. You'll be on your way. Then my wild, beautiful bird, you will have flown. Any day now, I'll be all alone. Ooh. Any day now, when your restless eyes meet someone new, to my sad surprise, then the blue shadow will fall all over town. Any day now, love will let me down. Ooh, ooh, ooh. I know I shouldn't want to keep you if you don't want to stay. Until you're gone forever, I'll be holding on for dear life, holding you this way, begging you to stay. Any day now, when the clock strikes gold, you'll come home. Then my tears will flow. Then the blue shadow will fall all over town. Any day now, love will let me down. She won't be around. Any day now, any day now, don't fly away, my beautiful bird. Don't fly away, my Elvis Presley, bien sûr. Elvis Presley avec Any Day Now, une reprise d'un tube composé à l'époque par Burt Bacharach et Al David, les maîtres de la pop américaine. Et puis tout ça pour dire qu'aujourd'hui, pourquoi je vous passe ce morceau, c'est parce que Elvis ressort en édition Legacy Edition du fameux From Elvis in Memphis, cet album cultissime de Elvis qui ressort avec inédits, morceaux en mono, stéréo, enfin bon, beaucoup de choses si vous aimez Elvis, et même pour ceux qui n'aiment pas, puisque c'était un album qui à la fois abordait la pop, le rock, enfin c'était assez impression que c'était Elvis à son apogée. Voilà donc pour la musique, on va continuer avec un petit cocktail, vous savez, c'est le rendez-vous habituel, le cocktail de Monsieur Clouseau. Je vous propose le Bombay Raspberry. Écoutez bien et notez surtout les ingrédients. Il vous faut 5 dixièmes de gin premium. Je ne vais pas citer de marque, bien sûr, parce que c'est interdit. 3 dixièmes de confiture de framboise, et oui. 2 dixièmes de jus de citron pressé et 4 feuilles de menthe. Si vous avez un shaker, ça va beaucoup vous aider parce qu'il en faut un. Donc il faut shaker et servir dans un verre eau, style tumbler ou long drink, comme on dit, avec de la glace, et vous ensuite vous rallongez avec... je vais pas non plus dire la marque, mais une eau gazeuse, sucrée ou pas d'ailleurs, tout dépend ce que vous aimez. Donc voilà, le Bombay Raspberry, vous retrouverez cette recette sur le site de Radio Grenouille, rubrique partie fine, avec tous les détails de la playlist de l'émission. On arrive au terme de cette émission, on va juste évoquer avec vous, Sébastien, ce dernier gros projet que vous avez pu concrétiser à Paris, au 104, le centre artistique de la ville de Marseille, rue d'Aubervilliers.
Paris.
De la ville de Paris, pardon. Paris, Marseille, ouais, c'est moi qui m'embrouille maintenant. De Paris, rue d'Aubervilliers, dans le 19e arrondissement de Paris. Rapidement, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait dans ce lieu?
Ben, rapidement, il se trouve que les gens qui ont le café du Palais Tokyo ont ouvert ce café-là, m'ont croisé lors de ma résidence, m'ont proposé de faire ce projet-là, qui est un projet d'aménagement, qui est mon vrai projet, la première fois que je fais vraiment un projet d'aménagement. Et c'est une interprétation de ce que peut être un café aujourd'hui en reprenant des classiques d'un décor de café.
On peut dire que c'est un peu, je sais pas si le terme est approprié, rétro-futuriste. Parce qu'il y a des influences quand même quand on voit, et là je vous invite à aller sur le site de Sébastien, os00.com, pour voir ces photos, parce qu'on a vraiment l'impression d'être à la fois un peu dans les années 50-60. Et à la fois, la structure est travaillée de manière très contemporaine, on va dire.
Donc la technologie, elle est d'aujourd'hui, pour pas dire de demain, mm-hmm. tu vois, pour pas. Et le rendu est un rendu pas intemporel, mais quelque chose qui a déjà la patine du temps, alors que c'est neuf. Donc je crois que sur le rendu, on a réussi ce qu'on voulait faire. Il se trouve qu'il y a un mélange de mobilier d'époque aussi dedans, hein, qui vient aussi donner une touch plus plus rétro. Et je crois que effectivement, il y a un côté rétro-futuriste, autant qu'aujourd'hui, je vais m'acheter un pantalon en fripe et avec une basket Nike dernier modèle. Mm-hmm. J'ai dit une marque, je suis désolé.
C'est pas grave. Mais
Donc voilà, je crois que c'est ça le rétrofuturisme, c'est toujours avoir un œil en arrière parce qu'il y a des gens incroyables qui sont passés derrière nous avec des idées incroyables, et que je crois qu'on a beaucoup à apprendre, et que nous en tant que jeunes et notre génération, ben, le futur nous appartient, donc soyons là.
Et puis c'est un lieu à taille humaine, on se sent bien, c'est pas très grand mais c'est très bien, et il faut dire qu'après c'est vrai que c'est un lieu qui s'ouvre, c'est une cour intérieure qui l'hiver en plus c'est couvert, c'est chauffé, donc
c'est un lieu merveilleux pour faire une soirée. Une grosse soirée. D'ailleurs, je t'invite volontiers.
Merci, Monsieur Clouseau est ravi.
Faire une grande soirée à Paris.
Monsieur Clouseau est ravi de cette invitation, et je tiendrai à informer les auditeurs de Radio Grenouille de ce projet, les auditeurs qui sont autant à Paris qu'à Marseille d'ailleurs, parce que j'aimerais vraiment qu'on concrétise ça, parce que le lieu est vraiment magnifique. J'invite tous les auditeurs qui sont de passage à Paris ou qui habitent à Paris d'aller au 104 rue d'Aubervilliers à Paris, dans le 19e arrondissement de Paris. Merci Sébastien Huering d'être passé dans les studios de La Grenouille. Nous faire un petit coucou et s'entretenir un peu avec moi, Monsieur Clouseau, dans cette émission Partie Fine. J'espère que vous avez apprécié ce moment. En tout cas, vous, chers auditeurs, n'oubliez pas de nous retrouver le mois prochain. Nouvelle émission, nouvelle invitée. N'hésitez pas non plus à aller sur le site internet de Radio Grenouille. À très bientôt et bon vent.